EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis le début de cette semaine, nous parlons du bienfait de s'évaluer pour évoluer. Nous parlons donc du bilan. Je commençais par établir la base que le bilan est vraiment une pratique biblique. Et je montrais que le Saint-Esprit devrait nous servir de boussole. On a parlé de faire un bilan personnel pour soi-même, dans sa propre vie, devant Dieu. On a parlé aussi de faire un bilan de couple, comme le point de départ pour faire le bilan de tout le système familial. Aujourd'hui, je voulais que nous puissions parler ensemble du fait de faire un bilan du leader en tant qu'un berger spirituel. On est un berger spirituel dans sa maison, on est le pasteur de sa maison, on est un berger spirituel à l'église, on est responsable de la louange, on est en charge de quoi que ce soit. Quand vous êtes leader en position de pouvoir apporter, encadrer, soutenir les autres spirituellement, par leader, je ne vois pas nécessairement une fonction. Mais jusque à cause de votre foi chrétienne, vous pouvez être influent. Vous pouvez avoir aucune fonction spirituelle dans votre église, dans votre département d'intercession, quoi que ce soit. Mais vous êtes une personne que l'on écoute, de qui les autres dépendent. C'est à vous qu'on donne un sujet de prière. Prie pour moi. Mais je suis qui? Mais non, quand toi tu pries, ton Dieu exauce. Si vous êtes un leader spirituel, votre façon de vous évaluer demande certains détails, certaines questions que d'autres ne se posent pas. Et si vous ne vous posez pas ces questions, votre évaluation sera biaisée et vous ne pourrez pas savoir si vous évoluez ou pas. Or, vous rendrez des comptes de ce rôle que vous êtes en train de jouer. Alors, je vais vous proposer, comme d'habitude, jusqu'à 10 questions dont vous avez besoin de vous poser pour être de plus en plus un véritable leader spirituel. Let's teach. Grandissons ensemble. Lorsque l'on fait un bilan d'un leader spirituel, on vise à vérifier le domaine de caractère, de comprendre le sens de notre mission et de se souvenir de l'authenticité de notre appel. La première des choses, ou les premiers des domaines dans lesquels il faudrait aller jeter son regard et regarder de près pour bien évaluer, c'est le domaine justement de l'appel et de l'intégrité. Appel et intégrité. Est-ce que tu t'es appelé toi-même? Tu t'es toi-même cherché des problèmes en te mettant dans cette position d'influence? Tu as juste aimé la fonction, le poste? Tu aimes bien quand les gens t'entourent? Ou bien le Seigneur t'a mis vraiment dans une position où, sans le vouloir, sans le chercher, il a mis sur toi quelque chose dont les autres ont besoin? Quelque chose que tu produis aussi? C'est pas juste que les gens te disent que tu en as, mais tu vois aucun résultat. Non, tu en as vraiment parce qu'on voit les résultats. Ce domaine-là, si oui ou non tu es authentiquement appelé, il faut en avoir des réponses au fur et à mesure qu'on avance. De fond, on peut être sûr qu'on est appelé à une chose, mais après les hommes nous font beaucoup d'autres demandes. Il faudrait s'arrêter un moment et se dire, suis-je censé faire tout ça? J'aime bien la réponse que Jésus a donnée à cette personne qui venait le voir. Il dit, maître, aide-moi à partager mon héritage avec mon frère ici. Jésus se tourne et dit, Qui m'a mis juge de vos problèmes de famille? C'est pas pour ça que je suis venu. En tant que leader spirituel, il faut avoir l'humilité et le bon sens de se dire, ça, ce ne sont pas mes affaires. Ça, ce n'est pas pour ça que Dieu m'a appelé. Vous savez, dans ce monde où nous sommes, les gens peuvent vous culpabiliser en vain par le plaisir de leur cœur de se sentir bien en vous rendant vous mauvais. Ils peuvent vous faire porter un poids dont vous n'aviez pas besoin. Et vraiment, toi, tu connais la parole de Dieu et tu laisses tout le monde comme ça. Écoutez-moi, vous ne sauverez pas l'humanité en allant partout. Jésus, lui, est venu seulement en Israël, visiter quelques villes. Il n'est même pas en Israël allé partout. Il est juste allé des lieux en lieux. Si vous n'évaluez pas très bien le véritable cadre, la circonférence, le circuit, les limites de votre appel. Si vous ne savez pas en quoi et pourquoi et où Dieu vous a envoyé et vous a appelé, vous allez perdre le nord. Vous allez vous cracher très très mal. Évaluez votre appel et évaluez votre degré d'intégrité. J'aime la belle définition de l'intégrité qu'a donné Billy Graham. Il dit, la réputation, c'est ce que les hommes connaissent de toi. L'intégrité, c'est ce que Dieu et les anges connaissent de toi. Les hommes savent ce que tu as formé comme image en respectant les codes de la société. Mais Dieu connaît les motivations derrière. L'intégrité, c'est ce que tu es à l'intérieur, loin des regards, cet individu-là, en tant que serviteur de Dieu, dans n'importe quel domaine où Dieu vous place. Je ne parle pas ici des personnes avec l'appel du ministère ou des fonctions ecclésiastiques. Je parle ici de ceux qui ont compris que Dieu nous a appelés à être à son service. Vous devenez donc une personne qui influence spirituellement les autres. Par mot leader spirituel, je n'entends pas pasteur nécessairement ou chef de quoi que ce soit. Par mot leader, j'entends le fait que vous ayez pris conscience que votre vie chrétienne est censée être contagieuse, que vous pouvez servir à l'Église et vous servir pour l'Église. Il est important donc que vous puissiez vous poser la question. Ai-je fait de la foi chrétienne juste une profession? Est-ce que je donne l'impression d'être chrétien ou je crois aux choses que je dis aux autres? Est-ce qu'en secret, je fais moi-même ce que je demande aux autres? Écoutez bien ça. Le bon berger veille d'abord sur lui-même, puis sur le troupeau. Ça, c'est une règle d'or que vous ne devez jamais oublier. Le bon berger, il veille d'abord sur lui, avant de veiller sur les troupeaux. Paul avait si bien dit à Timothée, dit « Veille sur toi et ton enseignement. » Mais aujourd'hui, je vois, nous veillons de foi, j'aimerais être nous, être sincère et me mettre moi aussi dans le sac. Nous, en tant que pasteurs de foi, nous veillons tellement sur l'Église de Jésus comme si elle était notre Église. Et le long de la route, on ne veille pas sur soi-même. On perd son âme, on s'épuise. Je rendrai jamais assez grâce à Dieu le moment où j'ai pu percevoir qu'il me disait « Arrête, Atoms. Arrête. » C'est drôle d'entendre Dieu te dire « Arrêtez » pour une chose qui est son œuvre. Tu dis « Ça ne peut pas être la voix de Dieu. Ça ne peut qu'être le diable qui me demande d'arrêter. » Mais non, on va y arriver. Quand on fait notre évaluation, Dieu nous dit des choses en tant que berger, sur nous-mêmes, qu'on n'était même pas prêt à écouter. Sachez qu'il faut veiller d'abord sur vous, sur la qualité de ce que vous vivez, la personne que vous êtes, avant de veiller sur l'œuvre que vous êtes censé exécuter. Parce que vous êtes le canal que Dieu va utiliser pour cette œuvre. Alors, imaginez-vous un canal qui est censé donner de l'eau, mais qui à l'intérieur est complètement sale. L'eau qui donne finalement est remplie de saleté. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Ah oui, je sais, surtout les pasteurs. Ils ont cette conscience. L'Église, c'est l'Église du Seigneur. Il a payé un grand prix pour ça. Je dois travailler dur. Je ne peux pas laisser. L'œuvre ici, c'est l'œuvre de Dieu. Jésus est mort à la croix pour ça. Mais vous avez entendu la suite logique de ces phrases? Je vais répondre. Prenez donc garde à vous-même. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Mais prenez garde à qui d'abord dans la liste? À vous-même. Psaume 78, verset 72. Psaume 78, verset 72. 78, 72. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. On décrit David. On dit, il dirigea le peuple de Dieu avec un cœur intègre. Vous voyez ça? On regarde chaque fois ce qu'il avait en lui en tant que valeur pour voir les faits qu'il a saillis sur son leadership. Cœur intègre, main intelligente. J'ai une question pour vous déjà à ce niveau. Êtes-vous vraiment appelé ou vous êtes fabriqué un appel? Vous êtes là parce que les amis se sont dit, ce serait bien d'aller à l'intercession. Et moi, j'ai toujours voulu faire le protocole. Vous êtes au bon endroit. Est-ce que vous êtes là où Dieu vous a appelé? Est-ce que vous faites ce que Dieu vous a vraiment demandé de faire ou vous faites ce qui vous plaît, ce que vous avez toujours aimé de faire? Et quand vous le faites, est-ce que vous êtes le même en secret et en public? Est-ce que vous vivez vous-même avant de le communiquer à qui que ce soit? Deuxième domaine dans lequel il faut jeter un coup d'œil bien précis lorsqu'on veut s'évaluer en tant que leader spirituel. Rythme et repos. Le jour où je me suis arrêté à ça, j'ai vu combien j'étais un piètre serviteur de Dieu. Un ami à moi, Catherine, vient de sortir un livre merveilleux qu'elle appelait « Oser ralentir ». Le but, c'est d'apprendre à se reposer. Elle parle du bien fondé du sabbat, un merveilleux livre, de vos livres. Et surtout, un serviteur de Dieu doit vraiment lire ce livre-là. J'aurais eu envie de lire ce livre avant même que j'ai compris que je devais commencer mon année sabbatique. Mais dès qu'on entre au service de Dieu, on devient tellement drogué par le service qu'on oublie que c'est nous le culte vivant. C'est un domaine qu'un leader spirituel doit évaluer très bien, comme bilan, après année, mois après mois. C'est son rythme de travail et son rythme de repos. La vie, c'est comme la musique. Quand on chante pas le long, de bout en bout. Il y a des petits moments de pause et vous devez en avoir. Moi, j'en avais pas. J'ai progressivement commencé dans ma vie à trouver la place du repos. Et comment j'ai appris chaque fois au sujet du repos? Parce que j'étais esquinté, épuisé, fatigué, complètement épuisé. Je me suis dit, est-ce que je suis obligé chaque fois de me sentir comme ça à la fin de la journée, à la fin de chaque mois, à la fin de chaque séminaire? Je dis non, pas du tout. T'es pas obligé, c'est toi-même qui aime ça. Ça veut au bout d'un moment, on aime être si occupé qu'on oublie pourquoi on était occupé. On commence à prendre plaisir à s'occuper, à faire tout le temps toutes nos occupations, et on oublie pourquoi on était autant occupé. Rythme et repos. Le sabbat est un acte de foi, pas un luxe. Le sabbat, mes amis, est un acte de foi, pas un luxe. Le jour où je me suis décidé de commencer à reprendre, à faire un temps sabbatique, ma famille et moi, on a eu une conversation, ma femme et moi, je me suis dit, oh Seigneur, si on avait continué notre rythme de vie, on n'allait jamais avoir cette conversation. Et Dieu seul sait combien on en avait besoin. Quand on a mis notre année sabbatique, j'ai vu, elle et moi, nous avons vu des choses sur nos enfants. On s'est dit, oh, si on n'avait pas eu notre année sabbatique, on n'allait pas suffisamment regarder cette chose. Et cette tare allait se manifester un peu plus tard dans la vie de nos enfants. Et on serait complètement dans la honte. On allait dire à Dieu, Seigneur, tu m'as abandonné. Or, nous, on a mal travaillé. Le sabbat est un acte de foi. Quand Dieu a institué le sabbat, et surtout pour la manne, quand la manne arrivait, comment il fallait respecter le sabbat, la Bible dit, Dieu leur demandait de prendre une double portion. Il en descendait une double portion à la veille de sabbat, pour qu'au jour du sabbat, ils puissent vraiment se reposer et ne pas travailler. Croyez-moi, vous ne ferez pas mieux l'œuvre de Dieu que lui-même. Croyez-moi, Dieu a quelqu'un d'autre pour vous remplacer. Vous n'êtes pas irremplaçable. Ma femme avait appris à me dire, tu sais, il y a un pasteur qui te seconde. Hein? Tu as des pasteurs exécutifs, des pasteurs assistants, des pasteurs associés. Mais il n'y a pas des maris assistants. Vrai que l'idée elle-même, mais je n'arrivais pas à la concevoir. Mais dit, tes enfants n'ont pas de papa assistant et moi, je n'ai pas de mari assistant. Ça a ouvert mes yeux. Marc chapitre 6, verset 31 dit ceci. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Eh, mes amis, c'est Jésus. Car il y avait beaucoup d'allants et des venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Combien de fois les gens dans les ministères prennent plaisir à dire, je n'ai même pas le temps de manger, je suis tellement occupé. Pas seulement dans le ministère, à l'église, parce qu'être leader spirituel, ce n'est pas qu'à l'église. Vous pouvez être dans un travail séculier, mais là-bas, le Seigneur vous a placé dans une position de pouvoir influencer les gens. Ne trouvez pas ça comme un sujet de joie, de dire, oh, je suis tellement débordé, vraiment, il y avait des âmes, il y avait des gens pour qui prier, je n'avais même pas le temps de manger. Ah bon? Savez-vous ce que Dieu a fait avec Élie quand il était tellement épuisé, fatigué, et il venait de faire descendre le feu? Vous savez ce que Dieu lui a envoyé du haut des cieux? Pas une huile d'onction, hein? Un pain chaud. Avec une cruche d'eau. Dieu Tout-Puissant lui a envoyé à manger. Mes amis, si Dieu nous envoie à manger, ce qui est manger, c'est pas n'importe quoi. Vous devez pas vous pour réjouir de ne pas savoir manger. Aujourd'hui, c'est comme, c'est devenu carrément une valeur de quelqu'un de concentré. C'est quelqu'un qui mange pas beaucoup. Il s'agit pas de manger beaucoup. Il s'agit de bien manger. Il s'agit de se réjouir du repas. Aujourd'hui, les gens ne savent pas se réjouir, surtout des serviteurs de Dieu, des leaders spirituels. Ils ne savent pas se réjouir du repas. Ils mangent pour clôturer la journée ou pour débuter la journée. Ils ne savent même pas savourer le repas. Moi, l'une des choses que je fais quand je voyage, c'est tenter de manger autre chose, sortir de ma cuisine, goûter autre chose que je n'ai jamais goûté. Mais vous voulez bien évaluer votre vie en tant que leader spirituel, regardez votre rythme, votre repos. Avec le temps, aujourd'hui, je peux vous prédire, je peux dire, celui-là, bientôt, il va commettre des bêtises énormes parce que le rythme qu'il a n'est pas bon. Exode chapitre 20, versets 8 à 10. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Ça, c'est le jour où Dieu établit le sabbat. J'ai toujours l'habitude de dire à la plupart de mes collaborateurs, des frères et sœurs avec qui nous servons le Seigneur, ne faites pas de dimanche votre jour de travail. Moi, je suis pasteur. Dimanche, c'est aussi mon jour de travail et des services. Mais on a 3 cultes. Et vous me donnez un même modérateur, une même chorale. Tous les serviteurs passent 3 cultes. Donc de 8h, de 7h à 15h, en train de servir à l'église et le lendemain, ils vont au boulot. Non, le lendemain, le lundi, moi, en tant que pasteur, j'ai repos. Je récupère ça comme mon sabbat. Mes jours commencent donc de ce lundi-là jusqu'à l'autre lundi. Mais vous, le lundi, vous allez partir à votre travail. Et le samedi, le dimanche qui était considéré pour vous comme jour de repos, vous vous êtes pas reposé. Au lieu de venir rendre culte à Dieu, vous êtes transformé à 100% durant toute la journée en serviteur à temps plein. Pendant que dans cette même église, il y a autant de conducteurs de louanges, autant de personnes pour chanter, autant de personnes pour servir. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les dimanches durant toute l'année, pendant que vous n'en avez pas l'appel et l'obligation. Et même quand vous en avez l'appel et l'obligation, vous êtes nombreux. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé, Jésus a envoyé les disciples 2 à 2, pour que le poids ne repose pas sur une seule personne. Quel est votre plan de repos? Comment vous vous reposez? Est-ce que vous avez prévu des jours de voyage, des jours de repos, des jours où vous n'allez nulle part, des moments où vous ne bougez pas? Est-ce que dans votre calendrier, il y a des temps de repos? J'ai appris à faire un congé sabbatique, mais j'ai appris aussi à intégrer le sabbat dans l'année, dans les mois, et dans la semaine, petit à petit. Le sabbat, c'est un temps que l'on passe avec sa famille, avec soi-même. On rend gloire à Dieu et on jouit de la vie qu'il nous a donnée. En tant que serviteur de Dieu, posez-vous cette question dans ce domaine-là. Troisièmement, c'est le domaine de vision, formation et fruits missionnels. Si vous êtes un leader spirituel, posez-vous cette question, évaluez ce domaine. Votre capacité à savoir quelle est la prochaine étape, où vous allez. Votre capacité à savoir les informations adéquates, utiles pour le domaine de votre appel. Et après, votre capacité à voir le fruit de vos efforts. Vous êtes serviteur, vous êtes leader, les Seigneurs vous appellent, vous influencez les gens de différents domaines. Vous allez où avec eux? On veut juste faire un ministère, on va juste prier. Pour aller où? Il doit avoir une direction. Mais aussi, de quoi avez-vous besoin comme formation pour tenir cette mission jusqu'au bout? Il y a des choses à apprendre. Pas pêle-mêle, vous devez faire une véritable liste des choses que vous devez apprendre. Avez-vous appris quelque chose de plus qui vous permettrait de mieux servir dans votre appel? Ou alors, quels sont vos fruits? Vous avez commencé, vous avez fait des réunions, oui, mais où sont les fruits? Quels étaient les indicateurs? Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Qu'est-ce qui s'est fait? Pas comment vous vous êtes senti, mais qu'est-ce qui s'est fait? Éphésiens 4, 11 à 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour les perfectionnements des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il a donné plusieurs ministères, mais avec un but. Des fruits doivent être vus. Matthieu 28, 19 à 20. L'ordre suprême. C'est là qu'il nous rappelle. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ça. Il faut une vision claire, une formation et des fruits. Faites d'eux des disciples, formez-les et améliorez leur façon de travailler. Il est temps des 10 questions de bilan. Depuis le début de cette semaine, à chaque fois, j'arrive à un moment où je donne 10 questions pratiques à poser pour faire un bilan. Des questions de réflexion pour évaluer où est-ce qu'on en est. Et là, on s'évalue en tant que leader spirituel. Et par le mot leader, je ne dis pas responsable nécessairement d'une église ou d'une activité ministérielle ou d'un département dans une église. Je parle d'une personne qui prend conscience qu'elle doit servir Dieu et qu'elle sert Dieu où elle va, au travail, à l'église, ou que ce soit, Dieu t'a placé en position d'influencer les autres. Voici les 10 questions que tu dois te poser pour t'évaluer. 1. Comment va ma vie cachée avec Dieu? Sans micro, sans podium, sans Zoom, sans groupe WhatsApp. Comment va ma vie cachée avec Dieu? La vie où personne ne me voit. La vie où je ne prie pas parce que c'est une prière collective. La vie où je ne jeûne pas parce que tout le monde jeûne. Quand je n'ai aucune responsabilité, aucun devoir à accomplir. Et si je n'avais aucun devoir à accomplir, cette vie-là, comment va-t-elle? Deuxièmement, où mon caractère a-t-il rattrapé ou limité mon charisme? Dans quel domaine de ma vie un manque de caractère ou un avantage de caractère ou simplement la façon dont je suis? Dans quel domaine de ma vie mon caractère a soit aidé mon ministère à évoluer ou alors le manque de caractère m'a fait souffrir? Où mon caractère a-t-il rattrapé ou limité mon charisme? J'avais des charismes, j'ai des dons, j'ai des capacités surnaturelles. Dieu même se manifeste, je peux prêcher, faire des miracles, accomplir des choses avec Dieu. Je peux prier pour les malades, ils sont guéris, les seigneurs m'exaucent. Mais dans quel domaine ce charisme-là s'est senti limité? Parce que j'ai manqué le caractère approprié. Dans quel domaine un mauvais caractère que j'ai caché a rattrapé ces charismes? Prophète, oui, mais faible dans les, avec les relations de sexe opposé. Il prophétise bien des messages de Dieu, mais après, il envoie des messages à toutes ces filles-là sur des rendez-vous secrets. Elle dit bien les choses qui viennent de Dieu, alléluia, remplies, mais après, tellement remplies de désirs du monde que demain, c'est achète-moi, donne-moi. Où est-ce que un caractère a rattrapé le charisme? Est-ce qu'il y a cet équilibre? Est-ce que ton caractère est suffisamment grand pour que ton charisme se pose dessus et trouve racine? Troisième question. Est-ce que je délègue et forme de relais? Le ministère, ce n'est pas une course à 100 mètres, mais dit toujours l'apôtre Dalo. Le ministère, ce n'est pas une course de vitesse à 100 mètres. Le ministère, c'est un marathon. C'est une longue course. Et des fois, dit, c'est une course au relais. Tu fais ta part, tu donnes. Et nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Je fais ma part dans l'équipe. Je cours le maximum de ce que je peux courir. Et je cours à côté de quelqu'un pendant un moment et lui prend la vitesse. Il va. Et je m'arrête de là où je suis en train de regarder, marchant petit à petit, le voyant lui aller avec le relais. Si tu es réellement appelé par Dieu, Dieu attend de toi de faire des choses, tu dois te poser cette question. Est-ce que je délègue? Est-ce que je forme les gens pour prendre le relais? Celui qui ne sait pas former les autres à faire demain ce qu'il fait dans le ministère vit dans l'insécurité. Il veut nous faire croire qu'il a un produit si unique qu'après lui, Dieu n'a pas le choix. Si, chacun de nous est unique, mais la mission, elle est continuelle. Les jambes sont à toi, les mains sont à toi, le parcours que tu vas faire est à toi, mais le relais est partagé. Pose-toi la question, est-ce que je me multiplie? Si je ne le fais pas moi, si c'est pas moi qui dirige la prière Zoom, qui dirige? Est-ce que je lui ai appris comment le faire? 4. Quelle dernière décision difficile ai-je prise par obéissance? En tant que serviteur de Dieu, en tant que leader spirituel, tu tu dois te poser cette question. Quelle dernière décision ai-je prise? Décision difficile, la plus récente, que j'ai prise par obéissance. Quelle est la dernière fois où mon cœur s'est senti en douleur en disant, ah, j'aurais pas voulu. Faut que j'obéisse. C'est important. C'est cette partie de notre cœur, c'est elle qui nous rappelle que nous ne travaillons pas à notre propre compte, que nous ne faisons pas que ce que nous voulons. Quelle est la dernière fois qu'il fallait que tu le fasses? Même quand tu le voulais pas, même quand les gens n'allaient pas te comprendre, même quand chacun prendrait sa position. Ce sont des moments importants que nous rappellent qu'on marche avec Dieu. C'était quand la dernière fois? Où tu l'as fait sans les regards des hommes, sans tenir compte de ce que diraient les Sanhédrins. Faire juste la volonté de Dieu. Cinquième question. Mon foyer est-il nourri? En tant que serviteur de Dieu, sache que nous sommes évalués par la qualité de nos familles. La Bible dit que dans les critères pour donner une responsabilité à quelqu'un à l'église, on doit regarder comment il s'occupe des siens. Alors, tout ce que tu fais là au service, à l'église, où que tu vas, que tu donnes comme conseil chez les gens, au cabinet politique où tu es un enfant de Dieu, à l'entreprise, tu montres que tu es un enfant de Dieu. La question fondamentale pour t'évaluer si tu es vraiment leader, c'est comment ça va avec ta femme, comment ça va avec tes enfants, comment ça va chez toi. Est-ce que tu as du temps pour eux? Est-ce que tu les écoutes? Est-ce qu'il y a la joie dans ta famille? Il y a des gens, on le voit, manifestant tellement de valeur et d'aisance, mais allez chez eux, vous dites, est-ce que je suis vraiment dans la maison de cet homme spirituel-là que je vois au travail? 6. Quelle voix de peur ou d'orgueil doit être refusée? Deux fois la peur ou l'orgueil nous parle. La peur te dit, ah, est-ce que tu as vraiment beaucoup prié? Et l'orgueil te dit, mais au fond, faut qu'on soit sincère, hein. Tu vois la chose, toi, tu n'es pas n'importe qui. Deux fois, on entend la voix de la peur et de l'orgueil nous parler un langage tellement réaliste. Mais pour être un serviteur de Dieu qui vaut très bien s'évaluer, tu dois t'arrêter un moment et dire, au milieu de toutes ces voix que j'entends, il y a la peur, il y a l'orgueil. Ça me dit quoi? Que je peux très bien distinguer et refuser ça et ne pas y croire et ne pas laisser ça entrer dans ma tête. 7. Où voyons-nous du fruit? Où est-ce que je vois du fruit dans mon appel et dans mon ministère? Je fais beaucoup de choses. Internet, je fais des lives, je fais des vidéos YouTube, je dirige des moments sur Zoom, je prêche chaque mercredi dans la rue, je prêche dans un taxi-bus, je crie en héros chaque matin pour que les gens m'entendent, j'envoie des newsletters dans les emails des gens, j'encourage mes amis. Où est-ce que je vois du fruit dans tout ce que je fais? Par fruit, j'entends conversion, guérison, croissance. Où est-ce que j'apporte des changements dans la vie des gens? 8. Quel pauvre, jeune, fragile suis-je en train d'élever? J'ai mis 3 catégories de personnes. Pour reconnaître que tu es un serviteur de Dieu, tu dois apprendre à élever les autres. Quel est le pauvre que tu élèves en riche? Quel est le jeune que tu élèves en mature? Quel est le fragile que tu élèves en fort? En tant que serviteur de Dieu, tu dois fondamentalement avoir ces 3 relations. La relation d'un mentor, la relation d'un ami et la relation de quelqu'un d'autre que tu élèves. Si tu es vraiment serviteur de Dieu, tu dois avoir un plan pour le bien-être de ceux qui sont pauvres, de ceux qui sont jeunes et de ceux qui sont fragiles. 9. Qui peut me dire non et m'interpeller? Si tu t'évalues en tant que serviteur de Dieu, tu dois être capable de te poser cette question. Qui dans ma vie a l'autorité de m'appeler et dit non? Et je dis ok. Qui dans ma vie a la capacité de m'interpeller et dit attention? Et je dis merci beaucoup. Si tu n'as personne comme ça, tu es en danger. Et enfin 10. Quelles limites et quel repos concret ai-je posé? Pour ton bien-être, il faut que tu poses des limites bien concrètes. Le jour où je m'étais rendu compte que ça allait chauffer dans ma vie, j'ai parlé aux anciens de l'église à l'époque, je leur ai dit, je suis dans l'obligation d'obliger un repos à chaque fois que j'ai fini le premier séminaire de l'année. Je sais que j'ai droit à mon repos de 21 jours annuel, mais ce n'est pas ma famille que je vais reposer. Ce n'est pas ma femme avec qui je vais me promener. C'est mon corps qui doit se reposer. J'ai besoin qu'on agite à tous mes repos, 10 jours de repos. On appelait ça repos de réconstitution. À chaque fois que je fais le grand séminaire de l'église appelé Exousia, tu dois être précis. Quelles sont les décisions que tu as prises pour ta santé? Je ne dirai pas beaucoup plus. Si je dois vous parler de la culture d'équipe qui doit être saine, en tant que serviteur de Dieu, vous devez avoir une culture d'équipe saine. La formule et le grand secret, c'est quoi? Vérité, grâce et clarté de rôle. Ça, c'est un domaine dans lequel vous devez vous évoluer en tant que serviteur de Dieu. On est allé de là jusque là. On a tout couvert. Il est temps que tu deviennes un serviteur sur qui Dieu peut compter. Moi, est-ce que je peux compter pour toi, sur toi pour demain? Demain, on va se voir. Dieu te bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.